J'aimerais parler sur l'irritation de Jonas. Dans Jonas chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, et qui ne te repent pas du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et là, il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête, et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. » Alors, qu'allons-nous faire quand Dieu n'agit pas comme nous le voudrions ? Nous avons tous des désirs, nous pensons tous savoir quelle est la meilleure manière d'agir dans les situations que nous traversons. En tout cas, on sait très bien ce que Dieu devrait faire. Et finalement, on aimerait bien être à la place de Dieu pour régler les problèmes soi-même. Surtout que si on était à la place de Dieu, on le ferait beaucoup plus vite. Mais seulement, Dieu n'agit pas comme nous le voulons. Et il n'agit pas toujours quand nous le voulons. Car Dieu n'est pas à notre disposition. Il n'est pas notre serviteur. C'est à nous de chercher sa face, de saisir sa pensée et de soumettre notre volonté à la sienne et de dire, Seigneur, en ton temps, tout ce que tu fais est parfait. Ici, Jonas se heurte à cette difficulté que Dieu n'agit pas comme il l'aurait espéré. Il avait son plan pour la ville de Ninive, c'est qu'elle soit jugée, qu'elle soit condamnée. Il espérait que Dieu allait punir ses pécheurs. Mais voilà, Dieu a décidé de faire grâce. Dieu n'agit pas comme Jonas le veut. Il y a un verset dans le psaume 115 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Alors nous devons comprendre cela, c'est que Dieu, il ne dépend pas du temps des circonstances. Nous devons plutôt chercher sa pensée, sa face, et comprendre ce qu'il veut nous communiquer, plutôt que d'être comme Jonas, à essayer d'imposer à Dieu quelque chose, et ça va générer en lui de l'irritation. Il va s'énerver, il va s'impatienter, et il va juger Dieu qui ne fait pas selon ce que lui pense juste. Alors le premier point que je vois dans ce passage, c'est les raisons de l'irritation. Quelles sont les raisons de l'irritation ? Une première raison, je l'ai souligné en introduction, c'est quand Dieu n'agit pas comme nous le voulons. Alors ça nous irrite. Jonas avait espéré que Dieu allait agir promptement et punir cette ville de Ninive. C'était un peuple méchant, on le sait, c'était des ennemis d'Israël, ils avaient fait des incursions et ils méritaient une grande sanction, ils méritaient la punition, le châtiment divin. Mais Jonas le dit dans le verset 2, il sait que Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, et en même temps que Dieu, voilà, il peut faire ce qu'il veut. Mais lui, Jonas n'a aucune pitié par rapport aux Ninivites. Et c'est là où on voit qu'il y a une différence entre la pensée de Dieu et la pensée de Jonas. De même qu'il y a une différence entre la pensée de Dieu est notre pensée aujourd'hui, que nous devons apprendre à connaître la pensée de Dieu. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la pensée de Dieu est éloignée de nos pensées. Alors, Dieu veut changer nos mentalités pour nous apprendre à raisonner de la bonne manière, parce que nous raisonnons mal, parce qu'il y a en nous des forteresses de jugement, des pensées faussées, peut-être des pensées héritées de notre vaine manière de vivre. Et cette transformation de nos mentalités ne se fait pas comme cela en un jour. On le voit très bien, par exemple, avec l'apôtre Pierre, qui était pourtant un croyant, qui connaissait bien Jésus. Il avait été 3 ans au contact du Seigneur, donc il avait eu l'occasion de faire des belles expériences. Mais profondément ancré en lui, il avait la religion juive, qui était sa religion d'origine. Et lorsqu'il a connu la grâce et qu'il a été sauvé, il est né de nouveau, on se rend compte qu'il était encore attaché à des éléments de sa religion d'origine. Par exemple, il n'était pas question de manger des animaux impurs, selon la loi, il ne faut pas manger tel aliment. Vous avez dans le Lévitique la liste des aliments permis, des aliments non autorisés. Donc il vivait dans la contrainte de cette loi encore. Et lorsque Dieu se révèle dans une vision, alors qu'il prie et qu'il voit la nappe remplie d'animaux, des animaux impurs selon la loi, des animaux qu'on ne doit pas manger, et la voix même de Dieu lui dit « Mais tue et mange ces animaux ». Et les forteresses dans nos pensées. Et non, Pierre dit non. Non, non, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. Vous voyez les forteresses, c'est quelque chose qui est ancré en nous et ça ne part pas comme ça. Et pourtant c'est Dieu qui lui dit « Tue et mange ». Et ça y va jusqu'à 2 fois, 3 fois, il revoit la même chose. Et puis finalement, Dieu lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. » Mais il faut du temps pour que ça rentre dans son esprit. Et il est en combat. Et il est en combat contre ses pensées qui le poussent à faire des choses que la loi lui a toujours dit qu'il fallait faire. Mais maintenant, on est sous la grâce, on est dans une autre dimension. C'est un petit peu ce que Jonas ne comprend pas. Il ne comprend pas la grâce de Dieu. Et lorsque Corneille a envoyé des serviteurs pour faire venir Pierre chez lui, parce que Corneille, c'était un païen qui avait besoin d'entendre l'Évangile, lorsque Pierre arrive devant la porte de Corneille, il dit « Mais vous savez qu'il est défendu pour un juif ?» Il se considère encore un petit peu comme juif, il dit, mais il dit « Pour un juif, ce n'est pas permis de rentrer chez un païen comme cela, parce qu'il y avait des rites, on était impurs. » Mais il dit « Mais Dieu m'a appris à ne plus considérer les choses ainsi. » Et c'est ainsi qu'il est rentré, qu'il a porté l'Évangile et que la famille de Corneille s'est convertie. C'est-à-dire que sa mentalité a été transformée par Dieu. Et cela, nous devons le vivre, frères et sœurs, parce que nous venons tous à Christ avec notre arrière-plan, avec notre culture, avec les expériences que nous avons apprises de la vie. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous rentrions dans la pensée divine, la pensée de la grâce, la pensée de l'amour pour le prochain, la pensée qui fait qu'on va tendre la main aux autres. Et tout cela va se faire progressivement dans notre vie chrétienne. Vous savez, Pierre, il était déjà baptisé du Saint-Esprit, donc il avait quelques années de vie chrétienne déjà. Il vivait très proche du Seigneur, mais néanmoins, il avait encore des progrès à faire. Et qui peut dire ce matin qu'il n'a aucun progrès à faire ? Nous sommes tous en devenir, nous devons avancer, nous devons être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors si Dieu n'agit pas comme nous le voulons, je reviens à Jonas, il voit que Dieu ne juge pas la ville, alors que c'est des grands pécheurs et qu'ils méritaient d'être foudroyés, un petit peu comme Jacques et Jean qui demandaient que le feu du ciel tombe sur les Samaritains qui étaient des grands pécheurs aussi par rapport aux Juifs. C'était un mélange, les Samaritains, entre des populations qui avaient été mises avec leur Dieu et puis il y avait quelques restes du Dieu d'Israël. Enfin, il y avait un mélange de religions. Donc, les Juifs voulaient bien qu'ils soient détruits, surtout Pierre et Jean, un peu comme Jonas. Ils s'attendaient à ce que Ninive soit détruite. Mais Jésus n'a pas la même optique et Dieu n'a pas la même optique dans ce texte. Alors, si Dieu ne fait pas ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va se mettre en colère, comme Jonas ? Est-ce qu'on va claquer la porte ? Est-ce qu'on va pousser des cris? Est-ce qu'on va se frapper la tête contre les murs? Est-ce qu'on va frapper son frère ou sa sœur pour se défouler? Parce que ça soulage, mais ça ne sert à rien. Et finalement, ça fait plus de mal. Et en fait, Jonas, quand il s'irrite, il se fait du mal à lui-même. Il est en train de s'enfoncer. Et il ne s'en sortira pas comme ça, parce que la voie de la colère aboutit toujours à l'égarement, au péché et à l'éloignement de Dieu. Une autre raison pour laquelle on peut s'irriter, c'est la jalousie. Ah, on est jaloux. On a l'exemple de Saül dans la parole de Dieu, qui était un roi quand même, qui avait été choisi par Dieu. Je le rappelle que c'est Dieu qui avait choisi Saül, qui se cachait derrière les bagages, et il a fait de lui, qui était humble à l'origine, le roi d'Israël. Mais l'orgueil lui est monté à l'esprit. Et lorsqu'il a vu que David avait plus de succès que lui, alors qu'il était plus jeune, qu'il avait plus de succès, ça lui a monté au cerveau et il a commencé à avoir de la haine, de la violence à l'égard de David, qui pourtant était un serviteur de Dieu. Et comme Jonathan, le fils de Saül, aimait David comme son âme, il a tout fait pour le sauver. Et dans 1 Samuel chapitre 20, verset 30, « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, parce que Jonathan défendait David. La colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David ?» Le fils d'Isaïe, c'est David. « À ta honte et à la honte de ta mère. » Vous voyez comment il parle, comment il est méchant à l'égard de David, alors que David n'a rien fait de mal. C'est un véritable serviteur de Dieu. Il aime Dieu et il accomplit des choses extraordinaires pour le Seigneur. Mais voilà, la jalousie. La jalousie parce qu'un autre a plus de succès. Alors ça va m'irriter. Mais ceux qui, comme Saül, s'irritent parce qu'ils sont jaloux, c'est qu'ils n'ont pas compris la manière dont Dieu agit. Parce que Dieu a donné des dons et des talents aux uns et aux autres. Mais il a donné des dons à l'un qu'il n'a pas donné à l'autre. Ainsi, Saül avait reçu certaines choses que David n'avait pas reçues. David avait reçu d'autres choses que Saül n'avait pas reçues. Mais c'est la complémentarité qui était bonne. Et Saül n'a pas compris cela. De même aujourd'hui dans l'Église, quand on ne comprend pas, quand on est jaloux, « Oui, mais moi j'aimerais bien faire ça, moi je voudrais faire ça, je voudrais être à cette poste, je voudrais être là, etc. » Mais c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas bien compris comment Dieu agit. Alors ça va nous irriter et on va être jaloux et on va être comme Saül avec de la colère qui va s'enflammer contre le frère, contre la sœur, parce qu'on envie sa situation. Alors quand on regarde ce qu'on n'a pas, on dira « on n'a jamais assez ». Mais il faut regarder ce que Dieu nous a donné et le mettre en action, servir selon les dons et les talents. Parce que quand on parle toujours de ce qu'on n'a pas, on veut toujours plus, on veut autre chose, mais cela n'est pas nécessaire. Alors on s'irrite, et puis on juge, et pourquoi Dieu bénit lui, et pourquoi Dieu ne me bénit pas, et on raisonne mal. Alors tout cela, nous devons le sortir de notre esprit. Donc la jalousie, c'est une source d'irritation. Notre source d'irritation, c'est dans Proverbes chapitre 15, verset 1er. Ce sont les paroles dures que nous prononçons. Ça excite la querelle. Proverbes 15, 1. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ah oui, les paroles dures. Et certains, malheureusement, ont la parole dure facile. Ils sont des pyromanes, parce qu'ils allument des feux. Ce sont des pyromanes qui sème la zizanie, la discorde. Vous savez, la langue, c'est un petit feu, dit Jacques, qui peut embraser une grande forêt. On est dans cette période où il y a des hectares de forêts qui partent en fumée, tout ça par un petit feu. Des fois, c'est un mégot de cigarette ou quelque chose qui n'a pas été bien éteint. Et bien voilà, ça embrase toute une forêt. Ça part de petit, mais ça fait des gros dégâts. Alors voilà, quand on sème la zizanie, quand on a des paroles dures, alors ça va exciter la colère, les querelles vont survenir, et alors qu'on devrait plutôt en être délivré. Mais vous savez qui c'est le semeur de zizanie dans la parole de Dieu? Le semeur d'ivraie, il est mentionné dans l'Écriture. Il s'appelle le diable, c'est le semeur d'ivraie. Mais si les chrétiens font le travail du diable, ben le diable, il se repose. Il n'a pas besoin de faire un travail qui est déjà fait par des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font, les chrétiens? Ils allument des feux, ils sèment la zizanie, ils ont des paroles dures. Alors, ça excite les querelles. La colère vient, et ça, c'est le travail du diable. Alors, ce n'est pas notre rôle, frères et sœurs. Et nous devons rejeter toute pensée de colère, d'animosité, parce que ce n'est pas notre travail. Oui, il y a un ennemi qui voudrait bien le faire, mais nous n'allons pas faire son travail et nous n'allons pas aider à cela. Soyons prudents, et même avec des personnes qui parlent durement, eh bien, apprenons à leur parler avec douceur pour les calmer, pour ramener la paix, parce que la Bible veut que nous soyons des artisans de paix et non de jugement, de dureté, de condamnation. Si vous ne le faites pas, c'est eux qui vont pas tarder à vous contaminer et vous allez devenir aussi vous-même irrité, et cela ne va pas aller dans le bon sens. Quelquefois, il y a des frères et sœurs qui viennent me dire « Mais pasteur, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. » Oui, mais en discutant, on arrive à certaines conclusions et il y a certains éléments à mettre en pratique, notamment certaines fréquentations. Oui, mais quand on ne veut pas prendre position à un moment donné, comment voulez-vous que ça aille mieux? Parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a des faiblesses pour telle ou telle raison. Mais c'est un petit peu comme le patient qui va chez son médecin qui a un fort taux de cholestérol mauvais. Et puis, le médecin lui donne les indications. Voilà, il va falloir veiller à l'alimentation. Mais lui, il veut continuer à manger sa charcuterie le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va s'empirer, sa situation. Si on ne veut pas changer, ça ne peut pas s'améliorer. Donc on a, nous, le médecin qui nous a donné l'ordonnance. Mais si on ne veut pas la mettre en pratique, eh bien on reviendra dans 6 mois. Pasteur, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Mais oui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout parce qu'on ne veut pas suivre l'ordonnance qui est pourtant très simple, qui est juste à appliquer. Et on le fait la plupart du temps quand le médecin nous donne une ordonnance. Alors on suit scrupuleusement ses indications parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Mais quand c'est la parole de Dieu, on raisonne. On dit, oh là là, c'est difficile, et puis moi je préfère garder mon train de vie, mes habitudes, et on ne veut rien changer. Eh bien, si on ne veut rien changer, c'est normal que ça ne change pas non plus. Donc c'est à nous de faire notre part, Dieu fera la sienne. Donc une autre conséquence de l'irritation, c'est des paroles dures. Un deuxième élément dans le texte de Jonas, c'est maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences de l'irritation? On a vu les causes. Pourquoi est-ce qu'on est énervé? Dieu n'agit pas comme on veut. Il y a une irritation qui commence à germer dans notre cœur. Mais chez Jonas, la conséquence, c'est qu'il va s'égarer. Sa prière, il s'égare dans la prière. Regardez par exemple le verset 3. Maintenant, c'est la prière de Jonas, éternelle. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à une prière pareille? Non, parce qu'elle est le fruit d'une irritation. Quand on est irrité, on s'égare. Et on ne peut pas dire que la mort, ça vaut mieux que la vie. On dit plutôt que c'est mieux de vivre pour Dieu, avec Dieu, en Dieu. Mais que, bien sûr, la mort viendra quand ce sera le temps. Mais de dire « je veux mourir, j'en ai assez de cette vie », ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour Jonas. Donc, son irritation va le pousser à demander des mauvaises choses. C'est pareil pour nous. Quand nous sommes irrités, nous commençons à parler à Dieu de la mauvaise manière. On va demander des mauvaises choses, on va mal parler. Soit on demande la mort, on demande « Seigneur, viens me reprendre, j'en peux plus, j'en ai assez de cette vie ». Et mon collègue de travail, qui est toujours pareil. Je t'avais prié qu'il parte, il est toujours là. Et puis on s'irrite, l'irritation. Mais Jonas ne voit plus correctement le Seigneur comme il est. Sa vision est faussée. Et quand on est irrité, qu'est-ce qui se passe? On se met sur le chemin de la perdition. Parce qu'il demande la mort. Il veut partir. En fait, il n'est plus dans la pensée de Dieu. Alors on ne voit plus, on n'entend plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est centré sur notre problème. Et quand on devient égoïste, centré sur nous-mêmes, alors on voit toujours qu'on est malheureux, que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui nous manquent, qu'on serait plus heureux si on était comme le voisin ou comme la voisine. Et on commence à envier des choses qu'on n'a pas. Et en fait, quand on est centré sur soi, comme Jonas, on va tourner en rond et on va demander à Dieu, mais n'importe quoi, des choses insensées. On est insatisfait. On finit par avoir assez de vivre. Mais il n'y a pas d'issue dans l'égoïsme. Quand on est centré sur soi, c'est la mort. C'est la fin. Mais par contre, quand on veut faire la volonté de Dieu, et quand on détourne ses yeux de nous-mêmes pour regarder les autres, et servir les autres, et faire ce que Dieu demande, alors c'est la joie, c'est la paix, c'est la satisfaction. Mais si on continue à centrer sur soi, on sera toujours malheureux. C'est pour ça, détachons nos yeux de nous-mêmes et regardons vers l'œuvre de Dieu, vers les besoins. Et il y a peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, il est dans aucun service, mais ce serait l'occasion de dire, ben, cette année, voilà, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Voilà, je vais m'engager. Et ça, c'est une source de satisfaction et de bénédiction parce qu'on commence à faire des choses pour les autres, à faire des choses pour Dieu. Et on est encouragé et on est fortifié et c'est une bénédiction. Alors Jonas, il s'égare dans sa prière. Deuxième élément des conséquences, Jonas refuse aux autres la grâce dont il a été l'objet lui-même. Car il ne faut pas oublier d'où il vient. Et nous, il ne faut pas oublier comment Dieu nous a tirés du péché où nous étions. Car Jonas, à l'origine, il a désobéi à Dieu. Il est parti vers Tarsis pour faire un voyage, sachant qu'il était appelé à aller à Ninive à l'opposé. Alors, il est parti dans un voyage qui lui a coûté cher. Il a dépensé tout son argent. Il a été jeté par-dessus bord parce qu'à un moment donné, ils ont compris dans le navire que le problème venait de Jonas. Il aurait dû mourir là dans l'eau à cause de son péché, mais Dieu lui a fait grâce, car le grand poisson est venu l'avaler, notamment d'un seul coup. Il ne l'a pas mâché au passage, mais il l'a avalé d'un seul coup, de sorte qu'il était encore entier quand il est rentré dans le ventre du poisson. Et là, il y a passé 3 jours et 3 nuits, l'occasion de méditer un petit peu sur ses difficultés, sur son attitude, et ça l'a fait revenir à Dieu. On peut dire que là, il disait, merci Seigneur, je méritais la mort, je méritais d'être noyé, mais tu m'as sauvé. Vous voyez, là, quand c'est pour lui, il comprend la grâce. Mais quand c'est pour les autres, ça lui reste en travers de la gorge, parce qu'il pensait qu'il méritait le jugement. C'est exactement ce que Jésus explique dans le Nouveau Testament, lorsqu'il prend l'image d'un roi qui vient faire rendre des comptes à ses serviteurs. Et il y en avait un qui devait 10 millions d'euros. Et à ce moment-là, il le fait venir, mettre en prison, il veut le vendre, lui, sa famille, pour régler sa dette. Et puis l'homme le supplie, « Ô roi, aie pitié de moi, je te rembourserai, je paierai ma dette. » Alors le roi a pitié, il voit ce misérable, il ne pourra jamais payer, alors je te remets ta dette. Et lorsque alors celui-là, on peut dire qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu. C'est quoi cette image? C'est quelqu'un qui devait mourir à cause de son péché, qui est gracié. C'est ça la grâce. Dieu lui fait grâce. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne tous nos péchés. Alors lui, quand il sort, il n'a rien compris de la grâce de Dieu. Il l'a compris juste pour lui personnellement comme un égoïste. Mais quand il voit quelqu'un qui lui doit 100 euros à la sortie, il exige le remboursement tout de suite, et comme l'autre ne peut pas payer, il le fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Vous voyez, il n'a pas compris. Il est comme Jonas, il est encore ancré dans le jugement, dans la condamnation, dans la loi. Alors quand le roi apprend cette nouvelle, il fait revenir ce serviteur-là pour lui dire « Mais toi, tu es un méchant serviteur, moi je t'avais fait grâce pour tous ces millions d'euros, et toi pour 100 euros, tu ne vas pas faire grâce ?» Alors c'est lui qui va se retrouver en prison à la fin. Si on ne comprend pas la grâce de Dieu, on sera toujours dans une prison quelque part. On sera enfermé dans nos raisonnements, on sera captif du péché. Alors, qu'est-ce que veut faire comprendre Dieu à Jonas? Il veut lui faire comprendre la grâce. Déjà, il a compris pour lui-même, mais il veut lui faire comprendre que ce n'est pas que pour lui, c'est pour le monde. C'est pour les perdus, c'est pour les pécheurs. Un autre élément que je voulais signaler dans les conséquences de l'irritation, quand on est très irrité, on peut passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. On est très en colère. Un petit peu comme Naaman, il a failli passer à côté de sa guérison parce qu'il était très énervé. Il était très énervé, c'était un général important, un haut gradé. Certainement que s'il y avait eu le 14 juillet, il aurait fait partie des personnalités présentes aux côtés du président de la République. Voyez. C'était un haut gradé. Et pourtant, c'est une petite esclave qui lui parle d'un prophète où, en Israël, s'il allait en Israël, il pourrait au moins être guéri de sa maladie. Vous voyez que Dieu se révèle par les choses les plus humbles. Une petite servante qui avait été esclave, qui avait été emmenée d'Israël. Alors, il écoute cette petite fille. Il se présente avec une lettre du roi de Syrie au roi d'Israël et dit, voilà, je viens pour obtenir ma guérison. Alors lui, il est habitué au protocole, donc il s'adresse au roi. Mais le roi qui est en face, il dit, mais moi, je ne peux pas guérir. Qui suis-je pour guérir? Est-ce que cet homme ne vient pas me chercher querelle? Et il ne fait rien pour lui. Alors, il est un peu déçu, mais il y a un prophète qui s'appelle Élisée, qui a entendu parler de cela, et qui fait venir ce grand général chez lui. Mais lorsque le général arrive avec ses chevaux, son or, son argent, ses vêtements, en fait, il venait pour acheter sa guérison parce que lui, il avait des moyens. Eh bien, le prophète ne sort même pas. Il délègue un serviteur qui va lui dire, bah, « Toi, Naaman, tu vas te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. » 7 fois. Et c'est à ce moment-là, dans 2 Rois 5:11, Naaman fut irrité. Il est irrité, il est en colère, parce que quand même, il a fait tout ce voyage, on ne vient pas l'honorer, on ne vient pas à sa rencontre. Alors c'est intéressant parce qu'il dit, « Voici, je me disais, voilà comment je pensais que Dieu allait faire. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main en place, il guérira le lépreux, etc. etc. » En fait, il avait des idées préconçues sur la manière de Dieu dont il allait procéder. Et comme Dieu n'agit pas comme cela et qu'il est un petit peu humilié, alors il est irrité. Mais son irritation, s'il avait poursuivi sa voie parce qu'il commence à dénigrer le fleuve du Jourdain, mais si Dieu veut que ça se passe dans le fleuve du Jourdain, ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui décide. Bon. Alors il dit, oui, mais les fleuves de Syrie, ils sont quand même mieux. Non, c'est le fleuve du Jourdain. Alors il s'en retournait et partait avec fureur, dit la parole de Dieu. Mais les serviteurs, et notez bien encore, ce sont les petits qui interviennent à chaque fois. C'était la petite esclave qui lui a parlé de Dieu. Et ici, ce sont les serviteurs qui lui disent, mais maître, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors fais-le, c'est possible, tu vas y arriver. Alors c'est ainsi que Naaman a été calmé de sa fureur et rentré dans l'eau du Jourdain. Mais son irritation aurait pu lui coûter la lèpre, c'est-à-dire il avait la lèpre qu'il aurait gardée toute sa vie s'il avait gardé son irritation. Donc il a écouté, il a fait ce qui lui était demandé, il s'est plongé 7 fois, et la Bible dit qu'à la 7e fois, il est ressorti avec une chair pure comme celle d'un bébé. Donc on voit que l'œuvre de Dieu est parfaite. Une autre conséquence de l'irritation, c'est qu'on peut commettre des graves erreurs. On connaît tous l'histoire de Caïn et Abel, qui ont apporté à Dieu leurs offrandes. Mais la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur les premiers-nés du troupeau d'Abel, mais pas sur les fruits de la terre de Caïn. Et il est dit dans Genèse 4:5, « Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. » Voilà. Dieu n'a pas approuvé son offrande, alors il s'est mis dans une profonde colère. Et là, il va faire quelque chose de grave. Dieu lui prévient, attention Caïn, le péché est tapis là à ta porte, il peut se jeter sur toi. Mais toi, tu peux encore dominer sur lui. Mais ça voulait dire, renonce à la colère. Ça voulait dire, demande pardon, arrête de t'entêter. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Et c'est là que nous avons notre liberté, frères et sœurs. Caïn a nourri la colère, il a entretenu l'animosité envers son frère. Et c'était tellement violent dans ses pensées. Peut-être personne ne le voyait à l'extérieur, mais dans son esprit, il avait nourri de la haine. Et quand il s'est retrouvé tout seul avec son frère Abel, il s'est jeté sur lui et l'a tué. Il a exprimé, en fait, la colère qui était au fond de son cœur. On passe souvent de la pensée aux actes. Et quand on nourrit la pensée, elle devient une forteresse, et après ça devient une action qui devient très grave, puisque là, il s'agit d'un meurtre. C'est même le premier meurtre dans la parole de Dieu, puisque c'était les deux premiers enfants. Et déjà, il n'y a que quatre êtres humains sur la terre, que déjà, il y en a un de mort. Ça montre que quand même, dans l'esprit humain, il y a de la violence et la volonté de faire la guerre. Elle est inscrite dans les gènes. La colère nous poussera toujours à faire des choses mauvaises. Et on va le regretter toute notre vie. Un jour, j'entendais ce témoignage d'un mari, donc c'était un couple, et il s'était mis violemment en colère contre son épouse. Il était tellement en colère, ça allait finir en drame. Alors, il est sorti de la maison en furie, il a descendu les escaliers, il est monté dans sa voiture et il a roulé à toute vitesse pour faire le tour du pâté de maison, un petit peu pour se décharger de sa colère. Oui, mais voilà qu'à un feu, il y avait une maman qui traversait avec son enfant. Eh bien, il s'est fallu d'une seconde près qu'il allait les écraser, il serait mort sur place. Que Dieu a épargné encore ces deux morts. Dans sa colère, il aurait pu faire quelque chose de grave. Il perd le contrôle, il aurait pu tuer deux personnes. Alors, voyez que la colère n'agit pas dans notre faveur. Et au lieu d'améliorer la situation, non seulement ça n'aurait pas résolu son problème dans son couple, mais en plus, il aurait commis deux homicides involontaires, mais quand même, deux personnes retranchées comme ça, à cause d'une colère, ça aurait été quelque chose de terrible. Donc, la colère nous pousse à commettre des choses graves. Et cinquième chose, la colère engendre des conflits. Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Et c'est pénible de côtoyer quelqu'un qui est toujours colérique, parce qu'il excite, des colères, il excite des querelles. Au lieu d'apaiser, il envenime. Et la réalité, c'est que son caractère n'est pas transformé par Christ et qu'il est profondément encore charnel. En fait, quand on n'est pas transformé et qu'on est colérite, on est un petit peu comme un pitbull évangélique et on mord. Il y a des pitbulls mâles et il y a des pitbulls femelles. Il y a les deux. Et dans Galates 5,15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ah oui, les pitbulls évangéliques. Ça fait mal quand ça mord. Hein? Alors, au lieu de se mordre les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, soyons patients, comprenons la grâce, en fait. Car Dieu nous a fait grâce, alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas grâce au frère et à la sœur, plutôt que de lui dire oh, « si je le crois, tu vas voir ». Ça va partir, ça va tomber. Et pourquoi ne pas faire grâce? Tourner la page et de dire, voilà, je veux marcher dans les voies du Seigneur. Ah, que Dieu nous délivre, parce que cela, ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. Voyez. Ça aboutit à beaucoup de mal dans l'Église, car des chrétiens qui se mordent et qui se dévorent les uns les autres, ils sont en train de faire du mal à l'œuvre de Dieu. Alors, il faut arrêter cela. Et il faut prendre la parole au sérieux et dire, stop, je termine. Que faire quand on se met en colère? Alors Jonas, lui, il s'est entêté. Je dirais que c'est le mauvais exemple, finalement. Il s'est entêté dans sa colère, alors Dieu lui a donné une leçon avec le ricin. Il a fait pousser un ricin dans une nuit pour lui donner un petit peu d'ombre. Et puis la nuit suivante, le ricin est mort et s'est irrité encore davantage. Fais-tu bien de te mettre en colère? Oui, je fais bien de me mettre en colère. C'est la personne qui s'entête dans son irritation. La mort m'est préférable à la vie. Vous voyez, il n'a pas évolué, lui. Il est resté dans sa colère. Sa prière, c'est exactement la même qu'il faisait dans sa colère. La mort est préférable à la vie, il le réitère. Bon. Donc, c'est l'exemple de quelqu'un qui persévère, ou qui s'entête, je préfère le mot, qui s'entête dans sa colère. Alors, le livre conclut en disant, voilà, tu as vu ce ricin. Il était levé dans une nuit, il est mort dans une nuit, et toi, tu te mets en colère à cause de cela. Et tu n'as pas pitié, toi, des 120 000 personnes, des hommes, sans compter les femmes et les enfants qui sont dans cette ville, et tu voudras les faire disparaître. En fait, ce livre se termine pour montrer que la grâce de Dieu, elle est pour tous les pécheurs qui ont besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu parce que l'Évangile va être prêché à toutes les nations. Et c'est le Nouveau Testament qui va le confirmer quand Jésus dit « Allez par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle ». Donc, que faire quand on se met en colère? La première chose, c'est de la rejeter. Psaume 37, verset 8. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Alors, laissons-la de côté. et passons à autre chose. Éphésiens 4, 31, ça c'est Paul qui dit que toute amertume, animosité, que toute colère, et à la fin, que toute colère disparaisse du milieu de vous. Ça doit disparaître, ça doit partir, il faut la laisser. Et enfin, Colossiens 3, 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, et la première c'est renoncer à la colère. Alors on voit que partout dans la Bible, il est dit d'abandonner, de renoncer, de rejeter la colère, mais ça c'est notre position spirituelle. Ce n'est pas la colère qui doit nous diriger, mais c'est nous qui devons la laisser, l'abandonner, la déposer au Seigneur. Personne ne va le faire pour vous, même moi je ne peux pas le faire à votre place, c'est une affaire de chacun personnellement. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire, mais ça veut dire que si on le fait, c'est une bénédiction qui nous attend. Mais si on ne le fait pas, on va être comme Jonas, on va s'entêter, on va s'irriter et ça va envenimer. Deuxième élément, ne pas attendre. Éphésiens 4, 26, des fois on se dit, oui, je le ferai plus tard, je laisserai le temps passer. Mais si vous vous mettez en colère, dit Paul, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, ne tardez pas à l'abandonner. N'attendez pas demain, faites-le maintenant. Et ne donnez pas accès au diable. Verset terrible, qui montre que la colère a pour conséquence d'ouvrir un accès dans notre cœur pour le diable. Et quand je disais tout à l'heure que même chrétien, on peut faire l'œuvre du diable, quand on est dans la colère et quand on fait les choses que le diable veut faire, semer la zizanie, le désordre, etc., ben, lui, il se repose en attendant. C'est son travail normalement. Mais là, il trouvera un accès chez le croyant pour lui permettre eh bien, de dire du mal, de faire des mauvaises choses, de parler de travers, et cela va faire beaucoup de dégâts dans l'œuvre de Dieu. Alors le temps n'arrange pas la situation, et si vous vous mettez en colère, eh bien, abandonnez-la, sachant que si vous attendez trop, votre cœur est ouvert à l'action du malin. Et puis être rempli de l'amour de Dieu, ça c'est vraiment l'antidote. 1 Corinthiens 13, 5, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Alors plus on va être rempli de l'amour de Dieu, plus l'irritation va partir et la colère va tomber. En fait, plus on est rempli de la présence de Dieu, plus on est en communion avec Dieu, plus ces choses bien disparaissent de notre vie. L'irritation viendra tôt ou tard frapper à notre porte parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous un peu comme Jonas. On a des temps où on comprend la grâce de Dieu, les choses que Dieu veut nous expliquer parce qu'on est touché. Et puis il y a des temps où on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas comme on voudrait. Et si on fait comme Jonas et qu'on s'entête dans la colère et qu'on en arrivera certainement à demander la mort à Dieu tellement on sera enfermé dans nos pensées, dans nos raisonnements, alors abandonnons-la la colère et disons comme Paul dit, le psalmiste dit, laisse la colère, que toute colère disparaisse du milieu de vous. Alors sinon elle va nous détruire de l'intérieur, elle va détruire, on va perdre des amis, mais si nous venons à Dieu, c'est certain qu'il peut nous délivrer de cette colère-là, car l'irritation ne fait pas l'œuvre de Dieu. Recherchons tout ce qui procure la paix, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, c'est un texte de Paul, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Entretenons nos pensées par les choses de Dieu, par des encouragements, en bénissant notre frère, notre sœur, c'est Dieu qui nous l'a donné, et veillons à ne pas laisser toute racine de colère faire des rejetons dans notre cœur. Merci encore pour ta parole, et nous croyons, Seigneur, que tu veux encore nous apprendre à être libérés de toute forme d'irritation, de colère, de jugement, de pensées mauvaises, de pensées de critique, de condamnation. Nous voulons aussi discerner ta grâce, car de même que tu nous as fait grâce, nous voulons faire grâce à notre frère, notre sœur. Ne pas, Seigneur, entretenir de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, car nous leur donnons de la force, nous leur donnons trop de force, nous faisons même le travail du diable. Et nous te prions, Seigneur, de nous délivrer de cela, de permettre que ton peuple soit vraiment dans la joie, dans la paix, une joie simple, la joie que tu donnes et qu'il est bon, Seigneur, de goûter à ta grâce et de vivre dans ton amour. Et nous voulons, Seigneur, apprendre à pardonner, à faire grâce, à notre frère, notre sœur, à bénir nos bien-aimés, notre Église, pour avancer ensemble dans ton œuvre. Oui, nous te louons, Seigneur, pour les frères et les sœurs que tu nous as donnés, pour l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, elle est spirituelle, elle est belle. C'est ton œuvre, Seigneur, et nous voulons la garder dans cette vision. Garde-nous dans ta paix le reste de cette journée et accompagne-nous pour la seule gloire de ton nom. Amen.